Je propose cette lecture d'Apocalypse, première lecture, premier chapitre, Apocalypse, au verset 5, deuxième partie. Apocalypse 1, verset 5, deuxième partie. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, alléluia, et qui a fait quoi ? De nous, un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et la domination au siècle des siècles, amen. Voici, il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet, oui, amen. Et voici ce que le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, amen. Jésus revient bientôt. Ce livre de l'Apocalypse se termine par Maranatha, viens Seigneur. Et nous l'attendons. Prenons la lecture aussi de Philippiens, Paul aux Philippiens, chapitre 2. Les 11 premiers versets, je lis Philippiens 2, 1 à 11. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, voilà ce que Paul dit, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez, qu'est-ce que vous avez en vous ? Ayez quoi ? Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et il y a un résultat à cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ces lectures en introduction de ce que j'aimerais que nous voyons ce soir dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Mais quelle introduction de refléter et de plutôt reproclamer la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui est rempli de gloire, et pourtant le Seigneur qui s'est fait serviteur de tous, au point de nous aimer et de donner et de livrer sa vie à la croix. Il n'y a pas un seul Dieu qui a pu avoir un plan autant parfait que cela. Seul Dieu le Père pouvait donner son Fils à la croix pour que nous puissions, que nous soyons pleinement sauvés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Est-ce que tu le crois ce soir ? Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi ? Est-ce que tu crois que son sang a coulé ? Est-ce que tu crois que le troisième jour, il est ressuscité ? Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort, il n'y a pas de mort sans résurrection. C'est un événement, la mort et la résurrection de Jésus n'est qu'un seul événement, amen. Et c'est qu'une fois dans l'histoire que ça s'est passé. Et ce point dans l'histoire ne va plus se passer. Et c'est pourquoi ce soir, il est important que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi personnellement. S'il y a encore un doute dans ton cœur, il faut absolument éjecter ce doute. Parce que le diable voudrait mettre dans ton cœur cette séduction que ce n'est pas vrai. Et pourtant, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est vie. Et la parole de Dieu reproduit en moi cette dimension de foi. Amen. Et je vais reproduire ce que je suis en Christ. Si je suis un homme de foi, je vais engendrer la foi. J'ai déjà dit ici. Si je suis un homme de doute, je vais engendrer le doute. Si je suis un homme qui est attaché à la mort, je vais engendrer la mort. Si je suis un homme attaché à la résurrection, je vais engendrer la résurrection. Amen. Je suis ce que je suis par grâce au Seigneur, Paul l'a aussi dit. C'est la grâce qui me rend vraiment en Christ ce que je suis, mais je vais aussi reproduire qui je suis dans le Seigneur. Et si ce soir tu as des doutes, eh bien prends la parole de Dieu au sérieux. Nourris-toi de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. si tu vois que tu manques de foi, et ça m'est déjà arrivé dans ma vie, tout d'un coup je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que je commence à manquer un petit peu de foi. Je n'ai plus cette foi vraiment vivante. Et le Seigneur m'a tout de suite remis à l'ordre. Voilà ce qu'il m'a dit, Jean-Paul, plonge-toi davantage dans les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ensuite, le miracle de la foi est engendré dans ma vie parce que je plonge mes regards dans l'Écriture sainte. Je ne suis pas un bigot des Écritures, non, pas du tout. Mais l'Écriture de Dieu me nourrit et dans ma foi me donne cette grâce de pouvoir marcher de grâce en grâce avec le Seigneur. Amen. Et alors, lorsque je plonge mes regards dans la parole de Dieu, lorsque je me nourris de la parole de Dieu, il y a cette dimension miraculeuse de la foi qui est boostée dans ma vie et qui me donne d'avancer dans la foi. Amen. Vous connaissez cette parabole de Jésus qui a dit qu'il y a deux manières de construire sa maison. Il y a la manière de la construire, et c'est souhaitable, sur le roc. Il y a la manière un petit peu plus facile, entre guillemets, de la construire sur le sable sans fondement. Et la clé de l'histoire, c'est la tempête. La tempête va de toute manière frapper dans ma vie. Il y aura des épreuves, il y aura des choses difficiles. Vous savez que même avec le Seigneur, ce n'est pas toujours une promenade de santé, on est d'accord, hein, avec le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, celui qui pratique la parole du Seigneur bâtira sa maison sur le roc. On sait que Jésus-Christ est le rocher des siècles, oui, mais le fait de pratiquer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de me nourrir de la parole de Dieu, va me donner automatiquement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un résultat, automatiquement ma maison sera construite sur le roc. Alors on se dit, mais c'est difficile de construire sur le roc. Non, ce n'est pas du tout difficile. La seule discipline, entre guillemets, et ne sommes-nous pas disciples de Christ? Quand on est disciple de Christ, on est discipliné. Je ne veux pas être trop lourd ce soir, mais discipliné dans la lecture de la parole de Dieu. Et alors que je lis la parole de Dieu, que je pratique la parole de Dieu, le miracle arrive, c'est garanti. Même si la tempête arrive, ta maison va tenir parce qu'elle est basée sur le roc. Christ, oui, mais parce que tu pratiques la parole de Dieu. Parce que tu vis de la parole de Dieu. Parce que tu te nourris des promesses de la parole de Dieu. Parce que tu pardonnes à celui qui t'a offensé. Parce que tu as été pardonné. Parce que tu places ta foi dans celui qui est ressuscité, qui vit au siècle des siècles. Parce que tu crois que son œuvre n'est pas en vain dans ta vie et dans ta famille. Parce que tu mets en pratique sa parole de Dieu parce que tu l'aimes. Parce que tu le prends au sérieux. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Amen. Et parce que tu veux croire la parole de Dieu, parce que tu la mets en pratique, tu honores le Seigneur. Amen. Le Seigneur est vivant. Dieu ne ment pas à ses promesses. Dieu n'est pas menteur. Jésus a révélé qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il tient ses promesses qui sont oui et amen. Il faut que tu sois animé de cette foi solide parce qu'on sait que la tempête arrive, que la séduction arrive et que la séduction va même arriver dans l'Église. Ne craignez rien. Nous prêcherons la parole de Dieu jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous allons vraiment enseigner le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu passe par la parole que Dieu nous a laissée. Amen. Alors que ces temps deviennent peut-être troublés, ouvrons la parole de Dieu, continuons de l'ouvrir dans l'Évangile selon Jean chapitre 14. Un passage qui m'a touché, le pasteur Walter nous a entretenu aussi la semaine dernière sur ce passage et nous allons reprendre deux, trois choses aussi que j'ai jugées tellement bonnes et tellement fortifiantes pour notre foi. Et regardez ce que Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble pas. Comment est-ce qu'on va faire? Tout simple, entre guillemets, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur sait que nous pouvons avoir des cœurs troublés. Nous sommes là à l'aube du sacrifice de Jésus, passant par la croix, cette chose épouvantable, et il sait que ses disciples qu'il a pourtant formés pendant 3 ans auront le cœur troublé. Et si Jésus le dit, c'est qu'ils auront le cœur troublé. On l'a vu par la suite, ils l'ont tous abandonné. Il y avait juste Jean qui était là avec sa mère devant la croix alors qu'il contemplait ce Seigneur tellement glorieux qui était crucifié, d'où le sang coulait de la croix. Il y avait ce sang qui coulait. Il n'y avait plus d'espoir à vue humaine. Et Jésus qui va encore souffler à l'oreille, si je puis dire, tout gentiment à son disciple Jean, « Voici, voici ta mère et mère, voici ton fils. » Parce que Jésus ne pouvait plus prendre soin de sa mère. Et voilà que Jésus va même jusqu'à penser à sa mère. Et le disciple qui l'aimait était là au pied de la croix. Mais il y avait comme cet abandon, il était abandonné du Père. Il y avait cette œuvre de la mort qui était là, que Jésus allait porter dans son corps. Et nous sommes dans cette Pâque, dans le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et il sait qu'on peut avoir le cœur troublé. On le verra, Jésus a aussi eu le cœur troublé. Et c'est parce que Jésus a eu le cœur troublé qu'il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Il n'y a qu'une recette à cela, placez votre foi dans l'Éternel. Placez votre foi dans le Seigneur. Croyez en Dieu votre Père, croyez aussi en moi. Il est impossible de croire en Dieu le Père sans croire en Jésus ou de croire en Jésus sans croire en Dieu le Père. C'est un événement aussi là, au niveau de la foi. Tu ne peux pas, dans ta foi, commencer à dissocier le Père de Jésus. Bien sûr, c'est un Dieu trinitaire. Dieu est Dieu le Père, Dieu est Dieu le Fils, Dieu est Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un, mais on ne peut pas les dissocier. Et lorsque je crois en Dieu mon Père, je crois aussi en Jésus-Christ. Amen. Et si je crois en Jésus, je crois aussi en le Père. Et c'est quelque chose là, comme une clé que Jésus donne à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le terme « se troubler », c'est comme de l'eau agitée. C'est comme quelque chose qui s'agite. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose en toi qui s'agite. Il y a comme plus de stabilité. Et le Seigneur nous renvoie dans ce terme-là, je l'ai retrouvé, dans l'Évangile, le même Évangile. Et il y a 7 places dans l'Évangile où ce terme de « troubler » est noté dans l'Évangile selon Jean. Et la première place, c'est justement cette eau agitée. Qu'est-ce que ça vous dit, cette eau agitée? Vous en souvenez? Dans l'Évangile selon Jean. Vous vous souvenez de l'événement? C'est l'infirme de la piscine de Bethesda. Et on peut lire au chapitre 5 de Jean après cela, dans le premier verset de Jean 5, il y a une fête des Juifs, Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement de la piscine, dans la piscine, et agitait l'eau. On retrouve ce terme d'eau agitée. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Et on se souvient ensuite du récit de cet homme malade depuis 38 ans. Jésus le voit couché et il sait que ça fait longtemps déjà qu'il est couché. Et puis Jésus lui demande, mais veux-tu retrouver la santé? Il y a cette question, est-ce que tu veux retrouver la santé? Et le malade lui répondit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. On retrouve, c'est le même terme que troublé ça. Que l'eau qui se trouble, que l'eau qui est agitée. Mais ce qui est extraordinaire de voir aussi, c'est que dans cette eau troublée, dans cette eau qui s'agite, quand les choses commencent à être troublées, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Mais par rapport à ce qui se passe, comment est-ce que tu réagis, toi, dans ces choses? Il y a ce paralytique qui voit cette eau troublée, Jésus qui est là, et quand Jésus est là, quelque chose va se passer. Amen. On retrouve ce terme de troublé dans cette eau qui est agitée. Les deux premières fois qu'on trouve dans ce texte de Jean 5. Plus loin, dans Jean 11, et c'est l'événement de Lazare, et on est en plein contexte. Vous vous souvenez quand Jésus, au verset 24 de Jean 11, dit, Marthe qui lui demande, mais « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Voici au verset 25, Jean 11, il est dit, « Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Alléluia. « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Regarde un petit peu plus loin dans l'événement de la résurrection de Lazare au verset 32. « Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et regarde au verset 33, très important là. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient, aussi il frémit en son esprit et Jésus fut troublé. Jésus a été agité en son cœur. Jésus a été troublé face à la mort. Jésus a été troublé face à la perte de son ami Lazare qui était mort. Jésus sait exactement ce qui se passe. Quand la mort frappe, c'est quelque chose d'épouvantable. Et Jésus a été lui-même troublé. Je ne sais pas si on a réalisé ça, mais la parole de Dieu est tellement forte que Jésus lui-même, tout Dieu qu'il est, Dieu créateur, on le sait, Dieu fait pleinement homme aussi, lui est troublé dans son cœur et c'est lorsque tu as ton cœur troublé. Il le sait. Amen. Et ça, ça m'aide dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur. Ce n'est pas un Seigneur qui est haut perché là dans son ciel, dans ses nuages, comme on le voit souvent dans des représentations. Non, non, Jésus a marché dans mes baskets, comme on peut dire. Il a été dans mes traces et il sait exactement ce que c'est que d'avoir le cœur troublé, surtout lorsque la mort frappe. Jésus a été troublé. Et regardez, ça va même plus loin là, c'est tellement fort. Jésus pose cette question, mais où l'avez-vous déposé ? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et verset 35, Jésus pleura. C'est le plus court verset de la parole de Dieu. Jésus pleure. Il a le cœur troublé et il pleure. Et il sait ce que c'est que la mort. Et il sait ce qu'il va faire pour justement proclamer la grâce de l'Éternel, ce Dieu de la vie qui va au-delà de la mort parce que lui est la résurrection et la vie. Il vient de proclamer, je suis la résurrection et la vie, mais son cœur est quand même troublé. Et il va jusqu'à pleurer. Et je crois que ce soir, tu as besoin de savoir que le Seigneur peut pleurer aussi avec toi. Que le Seigneur qui a connu ce cœur troublé connaît ce qui se passe dans ton cœur. Il n'y a pas de circonstance plus dramatique que la mort. Et Jésus a aussi eu ce cœur troublé. Jésus connaît tes besoins. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de présenter le Seigneur à ta vie. Amen. Nous sommes fiers de parler, de proclamer le nom du Seigneur dans l'Assemblée. Parce que c'est ce nom qui peut pleinement me sauver. Et c'est ce nom dont j'ai vraiment besoin. Celui qui se tient près de moi. Celui qui m'aime. Celui qui a aussi eu le cœur troublé. Et celui qui va me délivrer de les liens, la mort. Amen. Parce qu'il est tout puissant. Alléluia. Troisième mention de Jésus. Qui reprend dans l'Évangile cette dimension d'agitation et de trouble. Il y a aussi encore une mention de cette dimension d'avoir le cœur troublé. Et c'est la deuxième mention qu'on va voir aussi dans la parole de Dieu au chapitre 12. Donc on vient de voir la dimension de Lazare, qui est ressuscité, que Jésus a ressuscité parce qu'il est la résurrection et la vie. Et on le voit ensuite, Jésus qui entre à Jérusalem, c'est le chapitre 12 de Jean, juste le chapitre d'après. Et on le voit au chapitre 12, donc verset 27, quand Jésus entre à Jérusalem, et lorsqu'il entre à Jérusalem, Jésus va aussi annoncer sa mort, alors qu'il vient de vivre cet événement de la mort de Lazare. Et au verset 27, on va prendre le verset 25, peut-être au chapitre 12, verset 25. Jésus dit, « Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Il est question de vie ou de mort ici, là aussi. Amen. Verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Regarde au verset 25, « Maintenant mon âme est troublée de nouveau là. » Juste après l'événement de Lazare. Pourtant il l'a ressuscité, il est la résurrection et la vie. Mais face à la mort, on retrouve la deuxième mention où Jésus a encore le cœur troublé là. Mon âme, maintenant, est troublée. Elle est agitée. Vous vous rendez compte, Jésus, qui a le cœur agité, c'est pas peu ce qu'il a fait, le Seigneur. Et nous avons rendez-vous en face de ce sacrifice extraordinaire. Je crois que ça montre d'autant plus l'ampleur de Jésus qui a traversé cette souffrance absolument extraordinaire, la souffrance de la croix. Amen. Que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. parce qu'il a le cœur troublé. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28, « Père, glorifie ton nom. » Une voix vint alors du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. » Et la foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit la parole, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Lorsque Jésus a le cœur troublé, le Père n'est pas loin. Amen. Toi aussi, lorsque tu as le cœur troublé, le Père n'est pas loin. Regardez cette voix qui est sortie et qui est venue au secours du Fils, qui a l'âme et le cœur troublé. Et le Seigneur, le Père, Dieu le Père, est près de son Fils. Et ce soir, alors que peut-être tu as des difficultés, peut-être tu passes par des temps difficiles, peut-être que tu as le cœur troublé, souviens-toi que Jésus a aussi le cœur troublé et que son Père veut l'honorer. Verset 26, que son Père se tient là parce qu'il dit, « Père, sauve-moi de cette heure. » Et tu peux le dire aussi ce soir, « Père, sauve-moi de ce trouble que j'ai peut-être dans ma vie parce que ton Fils a eu aussi le cœur troublé. » Ne suis-je pas une même plante avec le Seigneur? Ne suis-je pas avec lui ce soir? Le Père n'est pas loin lorsque tu as le cœur troublé. Le Père se tient là parce qu'il s'est tenu tout près de son Fils. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as vraiment la parole de vie et parce que tu nous encourages ce soir. Un petit peu plus loin, on voit aussi que Jésus lave les pieds de ses disciples. Au chapitre 13, toujours dans Jean, j'ai dit... On voit ces sept fois où on trouve ce terme de troublé. On l'a vu donc dans cet événement de la piscine de Bethesda deux fois. On a vu Jésus qui est tout ému, qui a le cœur troublé lorsque Lazare est mort. On le voit maintenant à l'heure de sa mort. Lorsque Jésus annonce sa mort, il a le cœur troublé. On le retrouve plus loin ici quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Il se fait disciple. Il se fait serviteur. Il est là pour donner sa vie jusqu'au bout. Il est là pour le service. On voit au verset 18 du chapitre 13, on le lit, merci peut-être aussi de le mettre, Jean 13, verset 18 et suivant, et c'est dans l'annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Vous vous rendez compte ce que Jésus traverse comme épreuve là? Trahison sur trahison, rejet, cœur troublé. Il sait ce que c'est que d'avoir le cœur troublé. Et j'espère que ce soir le Seigneur veut te guérir peut-être des troubles que tu as dans ta vie. Parce que Jésus s'est identifié jusqu'à avoir le cœur troublé aussi. Je ne l'invente pas. Je découvre avec vous, c'est extraordinaire. Jamais je me serais imaginé que Jésus ait eu un cœur autant troublé. On est d'accord. C'est la parole de Dieu qu'on puisse avoir la révélation de la parole de Dieu. Qu'on puisse vraiment trouver ce Jésus qui s'identifie à nous jusque dans la mort et même jusqu'à avoir le cœur troublé pour nous parce que la mort est effroyable, parce que le péché est effroyable, parce que le péché nous a séparés de Dieu et parce que le péché a engendré le scandale de la mort et Jésus a aussi eu le cœur troublé là. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur ce soir. Dieu te donne rendez-vous pour apaiser ton cœur. Pour proclamer ce shalom sur ta vie, parce qu'il a aussi eu le cœur troublé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu, dans l'humilité de Dieu, parce que vous savez qu'il n'y a pas plus humble que Dieu, il n'y a pas plus orgueilleux que le diable. C'est les extrémités et c'est l'éternité qui les sépare. Dieu est éternellement humble, le diable est éternellement orgueilleux. C'est pour cela qu'il va être mort et que c'est la seconde mort, qu'il va être jeté dans les temps de feu avec ceux aussi qui ne se confient pas en l'éternel. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur nous donne vraiment cette grâce de réaliser ce que Christ a pleinement fait pour nous à la croix. Amen. Parce que Dieu est éternellement humble et parce que la parole de Dieu nous révèle l'humilité du Seigneur. Et dans la franchise de la parole de Dieu n'a pas honte de dire que Christ avait aussi un cœur troublé. Ça, c'est le cache de la parole de Dieu. Ça, c'est l'authenticité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de religion dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de contrefaçon dans la parole de Dieu. La parole de Dieu livre Dieu tel qu'il est. Amen. Et ce soir, on découvre que Jésus a le cœur troublé. Peut-être que tu doutes ce soir. Peut-être que pris dans ce que tu vis, tu te dis, mais Seigneur, tu ne comprends pas ma vie. Tu ne sais pas ce que je vis. Mais oui, il le sait exactement. Et le cœur troublé que tu as peut-être ce soir, le Seigneur veut le guérir parce qu'il s'est identifié à ce cœur troublé, parce que la mort engendre un cœur troublé. Amen. et parce que la résurrection, grâce à la mort, on peut le dire grâce à la mort, va t'entraîner dans la guérison et d'être une plante avec le Seigneur pour te rassurer, pour te dire « oui, je suis là ». Et la voix du Père va résonner dans ton cœur, alléluia, « je suis avec toi, ne crains rien, mes promesses sont oui et amen en Christ ». C'est la force de l'Évangile, alléluia. C'est tellement bon de proclamer ces choses avec grâce, avec force, avec l'autorité que le Seigneur nous donne dans la parole de Dieu d'avoir. Sais-tu que tu as l'autorité dans la parole de Dieu? Sais-tu que lorsque tu proclames la parole de Dieu, il y a quelque chose qui naît dans ton cœur? Quelles que soient tes circonstances, quelles que soient tes galères, quels que soient les désespoirs, quel que soit ce qu'on a mis sur ta vie, quel que soit ce qu'on a voulu te faire croire, tu peux vraiment prendre position ce soir parce que Jésus lui aussi a eu un cœur troublé. Et c'est l'honnêteté de la parole de Dieu. Verset 18, on va quand même prendre ce verset de Jean 13. « Ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Scandale ! On trahit le Fils. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez en moi et que moi je suis. En vérité, Jésus parle toujours la vérité parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On parle du Père et du Fils, c'est clair là. Après avoir parlé ainsi, Jésus de nouveau fut troublé en son esprit et vit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui ils parlaient, etc., etc. Jésus, devant la trahison, a eu le cœur troublé. Peut-être qu'on t'a trahi dans ta vie, c'est normal que tu aies un cœur troublé. On ne va pas te demander d'être un super-homme, là, ce n'est pas possible. Parce que Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, au moment de la trahison, il a eu le cœur troublé. D'accord ? Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. En face du traître, on a le cœur troublé. En face de celui que nous avons aimé, avec qui nous avons partagé tant de choses. Jésus a partagé sa vie, Jésus a donné sa vie, Jésus a enseigné ses disciples pendant 3 ans. Il était là à laver aussi les pieds des disciples, y compris de celui qui allait le trahir. Comment ne pas avoir le cœur troublé face à un traître? Tu ne peux pas avoir la paix face à un traître. Et lorsque la trahison arrive, c'est normal que tu aies le cœur troublé. Jésus a eu le cœur troublé face au traître. Et Jésus a passé par tous les stades. Que ce soit l'angoisse plus loin à Gethsémané à l'heure de la croix. Que ce soit la trahison. Que ce soit quand la mort frappe. Jésus, dans son cœur, fut aussi troublé. Tu as un Messie extraordinaire. C'est le message de l'Évangile, de Jésus qui s'identifie à ce que tu peux avoir le cœur troublé. Amen. Tu peux être qui tu es ce soir. Pas besoin de mettre un masque. Le Seigneur est là pour te délivrer de ce trouble. Amen. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et face au traître, eh bien Jésus a eu le cœur troublé parce qu'il savait que le sang, son sang, l'agneau sans tache, celui qui est immolé depuis la fondation du monde, allait être livré, allait être trahi, allait être accusé alors qu'il n'était pas accusable. Tout simplement parce que les pharisiens étaient jaloux de son ministère. Les pharisiens étaient jaloux de ses enseignements, de son enseignement qui était rempli d'autorité de la part du Père, qui était rempli d'amour. Et alors que les pharisiens voyaient l'exemple de Jésus, ils ont été jaloux au point de manigancer tout cela contre lui et au point même d'avoir parmi ses disciples un traître qui ne pensait qu'à l'argent et qui voulait livrer le sang innocent. Seigneur, pardonne-nous, Père, parce que ce cœur, c'est le cœur de l'homme qui doit se repentir et qui doit être devant toi ce soir pour vraiment capituler et te dire « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi ». Et nous retrouvons ce chapitre que nous venons de lire au début, Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Après toutes ces états d'âme que Jésus a traversé, attention, Je ne suis pas en train de diminuer le Seigneur dans sa gloire, mais vous comprenez que Jésus a aussi eu le cœur troublé. La parole de Dieu le dit, je ne sais pas si on comprend ce qui se passe, mais une fois que Jésus a eu le cœur troublé, il peut leur dire aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Et le Seigneur veut te dire cela aussi ce soir. Parce qu'il a eu le cœur troublé. Et la seule solution que tu peux avoir, c'est de croire en Dieu le Père. Croyez en Dieu le Père et croyez aussi en moi. Parce que moi, j'ai eu le cœur troublé. Je sais ce que c'est que d'avoir un cœur troublé. Amen. On ne met pas de masque devant le Seigneur. Et le Seigneur peut te délivrer pleinement de ce cœur troublé que tu peux avoir. Et la solution, c'est de croire en Dieu, c'est de placer ta confiance dans le Seigneur. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est un commandement, c'est un impératif. Comment ne pas avoir un cœur troublé? C'est de croire en Dieu, croire en Jésus. C'est tout simple. Mais est-ce que ton cœur va rejoindre cette simplicité? Est-ce que ce qu'on entend ce soir va descendre dans mon cœur justement pour vivre pleinement de l'Évangile? Et ce qui est simplement de faire croire en l'Éternel? Et quand on a le cœur troublé, le Père n'est pas loin. Regardez au verset 2, la merveille de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Si tu crois en Dieu le Père, si tu crois en Jésus, si tu mets ta foi en l'Éternel, c'est comme habiter avec le Père. Je ne sais pas si on l'a réalisé, mais tout de suite après ce verset 2, et c'est le miracle de la parole de Dieu, c'est la grâce de la révélation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Lorsque tu places ta confiance dans le Père, lorsque tu crois en Dieu le Père, lorsque tu crois en Jésus, tu rentres à la maison de ton Père. Amen. Tu habites avec le Père parce que le Père n'est jamais loin lorsque tu places ta foi en lui. Amen. Il y a même cette promesse d'habiter avec le Père. On sait que c'est une promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais c'est la rencontre avec Dieu le Père. Tu habites avec le Père lorsque tu crois en lui. Amen. Tu rentres à la maison avec le Père et tu habites avec le Père lorsque tu crois en l'Éternel. Alléluia. Verset 3, « Lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'endroit où je vais, vous en savez le chemin. » Bien sûr, il y a Thomas qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment serions-nous le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On retrouve la dimension du Père. Si tu as le cœur troublé, crois au Père. Tu habites avec le Père. Et au travers de Jésus, la mission de Jésus, c'est de nous amener dans les bras du Père. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux rencontrer le Père, tu rencontres Jésus et Jésus t'amène au Père. Jésus qui a le cœur troublé. Jésus qui te dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu le Père. Croyez aussi en moi. Et alors, je vous prépare une place vers le Père, auprès du Père. Et alors, je vous amène dans les bras du Père. Et alors, vous habiterez avec le Père. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »